Bah, il est 18h sur France Inter. Oui, je sais, Claire Servageant, il est plus 18h30.
Oh, bon, allez, on va pas pinailler. Oh, merci beaucoup, Alex. On vous souhaite un bon week-end.
Bon week-end.
Et on vous dit à lundi. C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France avec André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière, cofondateur du collectif Interhôpitaux. À 19h, le journal de Corinne Audouin. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, coup de projecteur sur la France d'aujourd'hui. Paysage, logement, transport, travail, mode de vie. Dites-nous si vous trouvez que notre pays a changé. Vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000. Mais d'abord, le journal de 18h. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, une troisième dose de vaccin pour les plus de 40 ans. C'est la recommandation des autorités sanitaires françaises qui veulent élargir ainsi le périmètre des personnes éligibles à cette dose de rappel. Explication dans un instant. L'Europe qui donne un nouveau coup de vis sanitaire face à la flambée des chiffres du Covid. L'Autriche se reconfine à partir de lundi et l'Allemagne s'apprête à mener la vie dure aux non-vaccinés. Reportage à suivre. À suivre aussi la production d'Ascoval qui ne sera pas délocalisée en Allemagne et c'est la SNCF qui paiera la facture. Le parcours criminel des trois terroristes du Bataclan à la barre de la cour d'assises spéciale de Paris. Les jeunes collégiens lyonnais sensibilisés au danger des rodéos urbains et la magie du cinéma racontée aux enfants. Visite de la Fondation Sédou en fin de journal.
France Inter. C'est un avis qui était très attendu.
L'avis de la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui vient donc de recommander une troisième dose de vaccin anti-Covid. Recommandation pour toutes les personnes de plus de 40 ans et plus. Les précisions avec Elisabeth Bouvet, les responsables à la Haute Autorité de Santé.
L'avis vient effectivement de l'observation et de l'étude des données israéliennes qui viennent d'être publiées dans l'Lancet. Ils ont étudié beaucoup de tranches d'âge. Vous savez qu'ils ont recommandé un rappel, procédé à un rappel depuis quelque temps en Israël, et que lorsqu'on regarde le bénéfice de cette troisième dose, on voit vraiment que c'est à partir de l'âge de 40 ans qu'on a un bénéfice net sur les formes graves et les séjours en réanimation et les décès. Donc la perte d'efficacité du vaccin, elle se produit dans toutes les tranches d'âge. Et dès l'âge de 40 ans, on a des conséquences sanitaires de cette baisse de l'immunité qu'on peut donc parfaitement contrecarrer en appliquant maintenant un rappel.
Elisabeth Bouvet, membre de la HAS avec Sophie Becherel, la Haute Autorité de Santé qui préconise de faire ce rappel 6 mois après la primo-vaccination. Puis en ce qui concerne l'élargissement à d'autres tranches d'âge, la HAS dit manquer encore de données. On y revient dans le journal de 19h.
L'Allemagne, elle, s'apprête à durcir massivement sa stratégie sanitaire anti-Covid.
Il n'est pas encore question de reconfinement national comme chez nos voisins autrichiens, comme chez son voisin autrichien où la mesure sera appliquée à partir de lundi. Mais chaque Länder, chaque région entend muscler quand même les restrictions. En Bavière, par exemple, il n'y aura pas de marché de Noël, pourtant une institution dans cette région. Les bars, les clubs, les discothèques aussi seront fermés. De manière générale, les non-vaccinés en Allemagne sont dans le viseur. Ils vont voir leur vie sociale sévèrement limitée, interdit d'accès aux endroits publics, comme les restaurants, les cinémas ou encore les salles de concert. Illustration à Berlin, reportage de notre correspondant Ludovic Piétenu.
Rita, une retraitée berlinoise, est bien contente de ces nouvelles mesures. Elle a reçu sa troisième dose de vaccin, le booster, un peu plus tôt dans la semaine, pendant que d'autres, s'agace-t-elle, ne sont toujours pas vaccinés.
Ils se font tester quand ils en ont besoin, mais ils n'ont toujours pas de vaccin. Avec cette règle des 2G, ça devient plus compliqué pour eux. Ils ne peuvent plus entrer nulle part. Ensuite, c'est leur choix. Soit ils se font vacciner, soit ils restent à la maison.
Car sinon, ajoute cette autre retraitée, Karine, l'épidémie ne s'arrêtera jamais. Et pendant ce temps-là, la société trinque, et notamment, selon elle, les enfants.
Ce sont encore eux qui souffrent. À l'école, mon petit-fils doit à nouveau porter un masque. Et je trouve cela impossible.
Dans les commerces, cela oblige au contrôle du pass vaccinal. Difficile de prédire si cela entraînera une baisse du chiffre d'affaires à l'approche du Black Friday et de Noël. Dans cette salle de sport que dirige Mathias, aucun souci, cela ne va rien changer.
Les gens qui ne viennent déjà plus s'entraîner ou qui ne pourraient plus faire du sport à cause de la 2G ont déjà pour la plupart arrêté de venir. Vu le contexte, ils ont déjà interrompu leur abonnement. On suspend leur contrat, ce n'est donc pas très grave.
Mathias est de cet avis, comme beaucoup, qu'il vaut mieux ces nouvelles règles plutôt que de tout fermer et d'arrêter une nouvelle fois l'économie. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
On parlait de la troisième dose pour les plus de 40 ans en France. Eh bien, les autorités sanitaires américaines, elles donnent leur feu vert à une troisième dose de vaccin pour tous les adultes vaccinés. Il y a au moins 6 mois. En Guadeloupe, la tension ne retombe pas et vire à la guérilla urbaine. La mobilisation des antipasses sanitaires a entraîné le blocage des routes d'accès au CHU, sauf pour les ambulances. 4 immeubles à Pointe-à-Pitre ont été incendiés, des bijouteries pillées. Les écoles sont fermées toute la journée. Une cellule de crise a été activée dans l'attente de renforts de 200 policiers et gendarmes.
Il est 18h06 sur France Inter, la suite du journal de Sébastien Legénie avec l'usine Ascoval qui va donc continuer à fonctionner comme avant.
Pas de délocalisation en effet d'une partie de sa production en Allemagne. C'était l'hypothèse envisagée par le nouvel actionnaire allemand qui entendait produire à moindre coût avec ses usines à charbon. L'État français est vite monté au créneau, dossier trop sensible en période électorale. Reculade donc dans la nuit des actionnaires. Concrètement, les fours de l'usine de Saint-Saulve vont poursuivre leur travail, sauf qu'ils coûtent plus cher, ils sont électriques et donc ils coûtent 3 fois plus cher à cause des hausses des prix de l'électricité. Quelqu'un va devoir malgré tout payer ce surcoût et c'est la SNCF qui s'y colle. Maxime Deps.
Bercy confirme ce soir nos informations de la mi-journée. La SNCF, client majeur de l'usine, va bien acheter plus cher les rails d'Ascoval, adapter son contrat à la situation afin que soient couverts les frais de production. La flambée des prix de l'électricité en premier, multipliée par 3 à Saint-Saulve depuis le début de l'année. Le fruit d'intenses discussions ces dernières heures, assure-t-on au cabinet d'Agnès Pannier-Runacher. Les autres clients d'Ascoval sont en pourparlers également avec l'actionnaire allemand pour trouver des arrangements, ce qui a finalement convaincu Sarchtal de faire machine arrière et de le confirmer en tout début d'après-midi dans un communiqué. Les effets négatifs limités, je cite, la production peut désormais être maintenue sur site. Ascoval, où par ailleurs le fournisseur d'électricité aujourd'hui n'est pas EDF. L'usine est alimentée par un concurrent hérité de l'ancien propriétaire British Steel et qui facture l'énergie beaucoup trop cher, selon Bercy. Au 1er janvier, EDF doit reprendre la main avec des conditions plus avantageuses, de nature là aussi à dégager l'horizon.
Maxime Deps, autre dossier sensible en cette période de présidentielle, la pêche. Hier, dans ce même journal, nous vous parlions de cette décision du gouvernement de prévoir une indemnisation pour les bateaux français qui n'obtiendraient pas de licence pour aller pêcher dans les eaux anglo-normandes. En clair, les pêcheurs se sentaient lâchés. « Nous ne lâcherons pas nos pêcheurs », leur a répondu aujourd'hui le chef de l'État en personne en déplacement dans les Hauts-de-France. Même ton rassurant chez Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, il n'y a ni renoncement ni reculade. On continue, dit-il, à la fois la négociation et la pression et on demande le même nombre de licences.
Au procès des attentats du 13 novembre 2015, on est passé à l'examen des faits.
Avec aujourd'hui l'examen du parcours des 3 terroristes du Bataclan, tous morts le soir des attentats. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Sébastien.
Ce sont les enquêteurs des services de police français qui décryptent à la barre leur cheminement.
Oui, ils ont expliqué que le trio ne se connaissait pas avant de prendre la route du djihad, mais Sami Amimour et Ismaël Mostefa ont cheminé ensemble en duo jusqu'en Syrie. Ils ont peut-être été mis en contact par le site internet radical Ansar Alak ou par un ami commun. Ils sont en tout cas partis en septembre 2013. Mostefa venait de Chartres et d'une famille pratiquant un islam rigoriste. Amimour débarquait de Drancy où il était chauffeur de bus après un bac littéraire et quelques cours à la fac de droit. Amimour avait déjà tenté de partir faire le djihad au Yémen en 2012. Il avait d'ailleurs été placé sous contrôle judiciaire, contrôle qu'il a donc réussi à déjouer pour rejoindre l'État islamique. En Syrie, Amimour et Mostefa ont intégré la brigade des immigrés. Mostefa y tenait un rôle de chef des francophones. Amimour était le suiveur introverti. Le dernier du trio, Fouad Mohamed Agad, était le plus jeune des terroristes du Bataclan. Fouad Mohamed Agad venait de Strasbourg. Il a rencontré les deux autres en Syrie, puis ils ont tous été désignés pour cette mission suicide à Paris et en août 2015, c'est à Mossoul, en Irak, que Mohamed Agad a passé un coup de fil à son frère incarcéré en France pour lui faire ses adieux et lui dire qu'il se retrouverait au paradis.
Sophie Parmentier avec Olivia Branger. Après les évêques, il y a 10 jours, les responsables des congrégations religieuses tirent à leur tour les conséquences du rapport Sauvé sur la pédocriminalité au sein de l'Église française. Réunie en Assemblée Générale à Lourdes, la Conférence des religieux et religieuses de France a créé une commission indépendante de reconnaissance et de réparation. À sa tête, l'ancien magistrat Antoine Garapon. Son équipe aura une mission un peu différente de celle lancée par les évêques. Son travail, en effet, va dépasser les frontières. On l'écoute.
Il y a des congrégations missionnaires. Il y a même eu quelque chose qu'on a repéré à la CIAS, qui consistait à exfiltrer les prédateurs et les envoyer en Afrique. Et donc, on ne peut pas oublier, on ne doit pas oublier des victimes qui se trouvent en Afrique, à Madagascar ou ailleurs, ou en Asie ou en Amérique latine, mais dont les prédateurs étaient français de congrégations françaises. Et donc, on considère que ça fait partie de notre compétence, si vous voulez, et donc il faudra se donner les moyens d'entrer en contact avec elles et de voir, de mesurer, de comprendre quel type de réparation peut être fait. Et c'est pour ça que dans la commission figure le pasteur Philippe Kamongombaya, qui est un pasteur d'église protestante unifiée de France, qui est d'origine congolaise et qui s'intéressera à ce dossier, qui est un dossier très très lourd, mais il faut bien commencer un jour.
Antoine Garapon avec Delphine Evenou. Les victimes peuvent envoyer leur dossier dès lundi à la commission. Adresse mail à retrouver sur franceinter.fr, tout comme l'entretien en longueur avec Antoine Garapon. Son sort inquiète toute la communauté internationale. La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, qui avait accusé un haut dignitaire chinois de viol la semaine dernière, n'a plus donné signe de vie depuis. L'ONU demande des preuves qu'elle se porte bien. Dans l'actualité internationale encore, Joe Biden, le président américain, obligé de transférer temporairement ses pouvoirs à la vice-présidente Kamala Harris, une première pour une femme, le temps pour Joe Biden de subir une coloscopie de routine selon la Maison-Blanche. Il sévissent dans les rues de Lyon et sur les réseaux depuis des semaines. Le collectif qu'on appelle les Dalton enchaîne rodéos à scooter et provocations à l'égard des autorités. Alors afin de faire de la prévention auprès des jeunes, la mairie de Lyon fait de la sensibilisation à la violence routière dans les collèges. Reportage dans le quartier de Gerland, Mathilde Imberti.
En ce moment, on en parle beaucoup sur Lyon. Les Dalton, c'est une mauvaise image pour vous.
Et pour qu'ils saisissent précisément les dangers de ces rodéos et des deux roues en général, les troisièmes du collège Gustave Rousset ont droit à une simulation. Un mannequin de leur corpulence est placé sur un scooter, son casque non attaché. Une voiture vient le percuter à 50 km/h. Projeté au sol, le conducteur du deux-roues meurt. Choquant et réaliste.
J'ai un ami proche de moi, il est mort comme ça. C'est pas des lol, faut se protéger et c'est dangereux.
Dangereux, mais de là à stopper net, roue arrière et pointe de vitesse, non.
Je continuerai, c'est ma passion.
Peut-être mettre un casque déjà, alors qu'avant on le mettait pas, parce que ce qu'on a vu c'était choquant et tout. Mais ça va pas nous arrêter de faire ce qu'on aime.
L'objectif est qu'au moins les adolescents se protègent avec les bons équipements, ménagent leur allure et se tiennent à l'écart des rodéos qui occupent beaucoup ces derniers temps. Mohamed Chihi, l'adjoint à la sécurité à Lyon, avec parfois des auteurs très jeunes.
Pour les plus jeunes qu'on a repérés, nous, dans nos opérations, c'est 15 ans. C'est une pratique qui, en tout cas, est très médiatisée sur les réseaux sociaux. Et on a besoin aussi d'avoir un contre-discours. C'est aussi l'occasion de leur dire qu'on tient à eux.
Pour marteler le message, une série d'interventions est prévue tout au long de l'année dans l'établissement scolaire. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et puis, ajoutons que 3 membres de ce collectif dit des Dalton seront jugés vendredi prochain à Lyon.
On termine, Sébastien, avec un lieu à destination des amoureux du cinéma.
Et là aussi, on y fait de la sensibilisation, mais au 7e art, la Fondation Cédou à Paris, à la fois un lieu de conservation, un centre de recherche, un outil pédagogique. Tous les samedis et pendant les vacances scolaires, la Fondation Cédou propose des activités à destination des enfants pour revenir aux sources du cinéma en s'amusant sur le son ou sur l'image. Corinne Pellissier a pu assister à l'un de ces ateliers.
C'est une véritable caverne d'Ali Baba, 120 mètres carrés de documents, d'archives, d'appareils et d'accessoires en tout genre que les enfants sont autorisés à manipuler, comme cette manivelle qui permet de faire défiler des images. Travail sur les formats, la couleur, le son ou les techniques. Tous les samedis, on fabrique des objets ou on regarde des films. Anne Gourdet-Marès, la responsable de ces ateliers, fait quasiment carton plein à tous les coups.
Allez, entrez, s'il vous plaît. Entrez, ne ratez pas la féerie fantastique du cirque impérial.
Ce qui est génial avec les enfants, c'est des éponges. Ils n'ont pas de jugement, ils reçoivent les choses sans se dire « tiens, ça c'est vieux, ça c'est pas vieux ». Hop, et à partir de là, on va pouvoir les faire réfléchir.
Très bon. Des acrobates, des funambules.
J'essaie de lui faire découvrir plein de choses, oui. Donc on vient à plein d'activités comme ça, mais voilà. C'est la première fois qu'on fait ça, en tout cas. Et sa première réaction était de me dire « maman, tu m'achètes cette machine ».
Bougez-moi le bouton qui est là-bas. Vas-y, bouge-le.
Vas-y.
Approchez-vous, n'hésitez pas.
Un spectacle ici sur une trentaine de minutes avec des extraits de films et des images insérées dans une lanterne magique. La semaine prochaine, ce sera pour les curieux de l'animation 3D. Les enfants vont fabriquer leur propre stéréoscope. L'occasion peut-être de susciter des vocations tout en plongeant dans l'histoire des cinémas pâtés de 1896 à nos jours.
Voilà, la suite du reportage de Corinne Pellissier sur la Fondation Cédou, ce sera demain dans les coulisses de la rédaction, demain matin à 6h55.
Merci beaucoup pour ce journal, Sébastien Legénie.